Le Labomatique,
l'émission scientifique de Silla.
Ma thèse en 180 secondes est un concours de vulgarisation scientifique destiné aux doctorants. L'objectif est de présenter le propos de leur thèse en 180 secondes, donc 3 minutes pour les moins bons en maths. Le 20 février avait lieu la demi-finale rennaise du concours, demi-finale à laquelle a participé Lolita Toche qui est avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Donc ta thèse était d'abord appelée « Finance et financement des entreprises sociales apprenantes, soutien et enjeux managériaux des entreprises d'économie sociale et solidaire ». Et maintenant c'est « L'entrepreneuriat collectif féminin au Cameroun ». Est-ce que tu peux déjà nous parler de ton parcours, quelles études tu as fait pour arriver à ce doctorat ?
Déjà j'ai commencé par un parcours initial en sciences de gestion et économique, c'était un parcours tronc commun à l'université de Tchang au Cameroun. Donc après, j'ai obtenu un master 2 en gestion financière et bancaire. Et au lieu de faire mon stage de fin d'études dans une banque, j'ai plutôt choisi de le faire dans un établissement de microfinance. Et l'établissement de microfinance était spécialisé dans le financement des femmes et particulièrement des femmes entrepreneurs. Et donc, ça m'a donné des idées. Et là, j'ai choisi de faire un master à l'Université de Lyon en économie sociale et solidaire pour mieux creuser l'aspect de la microfinance et de la finance des femmes. Et après ça, du coup, j'ai eu des conseils. Mon encadreur de master 2, vu le travail et ce qu'il y avait à creuser vraiment sur l'entrepreneuriat féminin, il m'a encouragé et conseillé à poursuivre justement mes études en thèse. Et c'est là que j'ai commencé ma thèse en 2015.
Ici, à Rennes, du coup ?
Oui, j'ai débuté ma thèse à Rennes en 2015.
Et justement, qu'est-ce qui t'a amené vers cette thématique ? Pourquoi est-ce que ça t'a intéressé d'aller voir ça ?
L'entrepreneuriat collectif féminin au Cameroun, déjà de façon banale, simplement parce que je suis une femme et le Cameroun parce que je suis camerounaise d'origine, mais aussi parce que durant mon parcours au Cameroun, j'ai toujours eu à remarquer les situations de femmes entrepreneurs, ma mère étant elle-même une femme entrepreneur, j'ai eu à remarquer les contraintes et surtout les difficultés qu'il pouvait y avoir. Et lorsqu'une femme réussissait, vraiment le côté exceptionnel de cette réussite. Et donc ça m'a poussé à me poser plusieurs questions et j'ai voulu étudier le sujet de plus près.
On l'entend pendant les 3 minutes de présentation de ta thèse. Le premier continent en termes d'entrepreneuriat féminin, c'est l'Afrique, où 25% des femmes créent leur entreprise. Comment on peut expliquer que l'Afrique est en avance par rapport aux autres continents ? Est-ce qu'il y a des facteurs, particulièrement en Afrique, qui favorisent l'entrepreneuriat féminin plutôt qu'ailleurs ?
Pour le moment, je n'aurai pas de réponse exacte, mais ce que j'ai pu voir à travers mes recherches, c'est que déjà, l'Afrique regroupe le plus de femmes pauvres également dans le monde. Et donc, à un moment donné, pour pouvoir réduire cette pauvreté, les femmes ont été encouragées à créer des entreprises. Et c'est justement pour cela que, de façon parallèle, le continent qui regroupait le plus de femmes pauvres et qui ont donc commencé à créer des entreprises, ça doit enregistrer le taux le plus important d'entrepreneuriat féminin au monde. Et en dehors de ça, il y a aussi le facteur secteur informel qui facilite beaucoup la création d'entreprises des femmes. C'est un secteur qui permet de contourner les obligations administratives. Et donc les femmes réussissent à créer des entreprises simplement. Et on peut aussi dire que ça peut être une explication à ce taux élevé d'entrepreneuriat féminin.
Et donc ta thèse, elle se concentre sur la situation camerounaise. Donc tu le disais, tu es d'origine camerounaise et puis tu avais l'exemple de ta mère qui a monté son entreprise. Au-delà de ça, en quoi la situation camerounaise est-elle particulièrement intéressante en termes d'entrepreneuriat féminin ?
Puisque je m'intéresse surtout à l'entrepreneuriat collectif, au Cameroun et particulièrement dans la région de l'Ouest dans laquelle se situe mon terrain, les femmes ont il y a une grande dynamique de groupes de femmes. Les femmes se réunissent beaucoup en association ou en groupe de danse. Et l'idée, c'est vraiment de voir si elles réussissent déjà à avoir cette dynamique de groupe, pourquoi ne pas profiter de cet élan de groupe pour réaliser une activité économique à travers cela. Et c'est justement ce lien ou cette passerelle que j'essaye de voir, un groupe qui existe, comment réaliser une activité économique après.
Et au-delà de l'ambition entrepreneuriale, la majorité de ces femmes conservent une petite activité par manque d'argent ou de compétences, par exemple. Est-ce que ces lacunes viennent d'un manque d'accompagnement des entrepreneurs en général ou d'un problème qui serait plus profond ?
Ça peut être les deux, mais sinon, depuis les dernières années, il y a quand même un grand mouvement d'accompagnement de femmes entrepreneurs. Ça peut être en termes de financement, de montage de projets, de business plan et autres, mais aussi ça peut être lié fortement au contexte. C'est-à-dire l'idée de créer une entreprise pour sortir de la pauvreté, dès le départ, il n'y a pas une dynamique de développement assez élevé de l'entreprise derrière, ce qui fait que le simple fait d'avoir un peu de revenus dans l'activité peut être satisfaisant ou juste suffisant sans vouloir chercher trop loin. Ouais.
Et donc, on parlait de l'entrepreneuriat collectif, ta thèse se concentre dessus. Les femmes, justement, sont poussées à se regrouper pour favoriser leur productivité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus de regroupement ? Comment ça se passe ? Comment elles sont mises en contact ?
Oui, donc, je ne vais pas forcément dire pousser, mais vraiment encourager. L'idée, c'est à un moment, au Cameroun, il y a eu un recrutement d'agents de vulgarisation, par exemple. Et donc, dans chaque zone ou dans chaque secteur, ça commençait déjà par l'identification peut-être des femmes agricultrices, celles qui font de l'élevage, ça dépend de l'activité qu'elles réalisaient, et de programmer déjà une réunion, soit collective, soit avec d'autres membres, pour essayer de présenter et de sensibiliser aux bienfaits du groupe par rapport aux activités qu'elles réalisent. Ça pouvait être simplement des achats groupés pour les semences ou les intrants, ou les ventes groupées pour éviter que les acheteurs aient plus de pouvoir sur elles.
Et donc l'objet de ta thèse, ça va notamment être de vérifier justement si cette méthode améliore vraiment la productivité, non ?
Oui, c'est vraiment de voir si le groupe déjà vraiment apporte une valeur ajoutée en plus. Au lieu d'investir toute seule, est-ce que lorsque j'ai investi avec un groupe de femmes, j'ai plus de rentabilité ou de revenus, mais aussi de voir tout ce qui peut se passer, comment le groupe est géré. Il ne suffit pas juste de créer le groupe, même si ça a des avantages. Il peut avoir aussi des conflits. Comment est-ce qu'on prend les décisions? Qui apporte quoi? Comment on réussit à gérer le groupe justement pour avoir mieux que si on investissait toute seule?
Et est-ce que cet investissement collectif, il présente des inconvénients aussi ?
Oui, en termes de... ça peut être des conflits. Moi, le groupe que j'étudie particulièrement ne présente pas forcément de conflits parce que c'était un groupe qui existait avant la création de l'entreprise qu'elles veulent créer. Donc, elles se connaissaient avant, à la base, ce qui facilite un peu les choses. Mais j'ai eu à rencontrer d'autres groupes qui sont en train de mourir, si je peux dire. Juste parce qu'au départ, justement, se sont regroupés sans lien social réel, soit du même quartier, soit de la même famille, soit d'une même association. Et donc, au final, il y a eu des conflits qui sont arrivés, soit sur des financements, soit sur certaines qui pensaient qu'elles s'investissaient plus que d'autres. Et donc, ça a conduit à la ruine de leur projet.
Et donc, dans le cadre de ta thèse, tu t'es rendu sur place au Cameroun, dans une entreprise de transformation d'avocats en huile. Pour y mener ton enquête, qu'est-ce que tu cherchais en allant là-bas, en fait ?
Déjà, l'entreprise, ce n'est pas une entreprise qui existe déjà, c'est un projet de création dont je travaille avec le groupe qui veut créer justement cette coopérative de transformation d'avocats en huile. Ce qui m'a amené dans ce groupe, c'était vraiment le fait qu'elle soit encore en création. Déjà, j'avais identifié le Cameroun et la région de l'Ouest comme terrain d'études, donc j'ai commencé à localiser, je suis allée au registre des coopératives pour commencer à repérer les différentes coopératives de femmes qui existaient. Mais après, lorsqu'on m'a fait savoir qu'il y avait un groupe de femmes qui était encore en création, et puisque moi j'ai envie d'étudier vraiment les prises de décision, la gestion du groupe, comment le collectif se forme, comment tout se passe, j'ai donc choisi ce groupe-là parce qu'il était plus pertinent pour ma recherche.
Et ta recherche, comment elle s'est déroulée sur place ?
Sur place, pour le moment, j'ai fait deux études, deux descentes sur le terrain. Et donc, la première étape, c'était vraiment l'étape, je vais dire, de prise de connaissance, de prise de contact. Donc, c'était de faire déjà connaissance avec le groupe, de dire en quoi consistent mes recherches, de me faire accepter par le groupe. Et donc, de commencer à participer aux réunions. Et de façon globale dans la région, d'étudier les dynamiques de groupes de femmes, soit avec des études documentaires en voyant comment dans les registres, le nombre de groupes de femmes créés, quel type d'activité, les régions les plus prisées. Donc, c'était vraiment une étape pour faire un état des lieux. Et la deuxième étape était un peu plus concrète parce que l'idée, c'était vraiment la discussion avec le groupe de femmes pour commencer à voir comment le projet va être mené, comment est-ce que le financement sera trouvé, qui va gérer le groupe, comment est-ce que chacune se voit en termes de responsabilité, le local, le lieu où sera situé le projet, comment va se passer l'approvisionnement, l'organisation des producteurs. Donc on a vraiment commencé à réfléchir de façon plus pratique sur le projet.
Et donc cette deuxième étape, plus particulièrement, j'imagine qu'elle t'a apporté des informations pour ta thèse. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces études ?
Oui, ça m'a apporté des informations, surtout que je vais sur le terrain, mais pas uniquement en tant que chercheur, je participe vraiment. Donc je réfléchis avec elle, je les accompagne, si je peux dire. On réfléchit vraiment ensemble, donc je suis vraiment impliquée dans le projet. Et ça m'a permis de voir vraiment... de vivre en temps réel ou en situation présente, cette création, ces discussions, ces échanges, ces débats, de me rendre aussi dans les administrations locales en termes de formalité de création d'entreprise, de voir les difficultés des procédures administratives. Je me suis aussi rendue dans des établissements financiers pour voir s'il existe des financements pour des groupes. Donc ça m'a permis de voir qu'il y a des choses qui sont déjà faites, mais c'est surtout le comment elles sont faites qui pourraient être améliorées. Donc c'est sur ça que je suis encore en train de travailler dans la suite de ma thèse.
Et en faisant cette thèse, tu as décidé de participer à ma thèse en 180 secondes. Pourquoi cette décision et comment s'est organisée la préparation d'un concours de vulgarisation comme ça ?
Donc cette décision, justement, pour vulgariser ma thèse, parce que parfois le problème de nous doctorants, c'est qu'on a toujours tendance à être devant notre ordinateur, les acteurs de terrain, notre directeur de recherche. Au final, lorsque juste une amie qui n'est pas dans votre domaine vous demande « ta thèse porte sur quoi ? Tu fais ton doctorat, ça porte sur quoi ?» On pourrait prendre 30 minutes, une heure, expliquer ce qu'on fait, parce que ça fait quand même un an, deux ans ou trois ans en fonction de l'année où on est qu'on le fait. Et l'idée justement de la vulgarisation était intéressante parce que lorsqu'on a reçu, bon déjà il y a des mails de formation qui sont envoyés à tous les doctorants. Lorsque moi j'ai reçu le mail, la présentation de la formation qui était vraiment le côté vulgarisation communiqué, pouvoir parler de sa thèse en quelques minutes à un public non spécifique ou non professionnel en fonction du domaine qu'on réalise, m'a semblé pertinent et je me suis inscrite à la formation.
Et donc comment ça s'est fait après ?
Donc on a eu deux journées de formation entières séparées de deux semaines qui étaient très intéressantes. On avait des accompagnateurs et un formateur plus particulièrement. Donc on nous a amené au fur et à mesure à parler de notre sujet de la façon la plus brève possible. Donc vraiment au départ, c'est la présentation. On se présente entre nous, l'ambiance est très agréable, chacun s'exprime librement. Et donc le formateur et tous les accompagnants qui sont présents nous amènent, en fonction de chaque point, le contexte, la méthodologie, les résultats, à exprimer ou à dire ce qu'on fait de façon vraiment... très simple, la plus simple possible. Ils ont des outils, il y a des outils, des exemples, des analogies qu'on peut prendre et plein d'autres choses qu'on apprend pendant la formation pour justement arriver à produire un texte en 3 minutes.
Et donc là, ta thèse, tu me disais tout à l'heure, tu vas essayer de la finir à la fin de l'année 2018, c'est ça ?
Oui, j'espère qu'avant le 31 décembre 2018.
et la suite pour toi, après cette thèse, ça va être quoi ? Quels seront tes projets ? Déjà, est-ce que dans le cadre de cette thèse, tu comptes retourner au Cameroun sur le terrain ou
Oui, je vais garder le contact avec le groupe de femmes justement qui travaillent sur le projet parce que je pense que même après avoir soutenu ma thèse, ça sera encore intéressant de voir, d'évaluer le projet, comment ça se passe, comment ça continue, quand l'activité sera vraiment réalisée. Et en termes de projet, moi c'est vrai que j'aime beaucoup l'enseignement. Je souhaiterais bien continuer dans l'enseignement et la recherche après ma thèse.
D'accord, bah merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Oui. Merci à vous aussi.
Et c'est la fin de ce Labomatique.
Le Labomatique.
L'émission scientifique. Silence.